France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand les livres étaient des rouleaux, quand un monument mythique, le mythe fondateur de toutes les bibliothèques à venir, quand un monument mythique donc fut détruit, et comment du reste ? Et quand un monument disparu laisse place, mais pas à la même place, à un nouveau bâtiment contemporain, un dialogue entre les pays de toute la Méditerranée, eh bien, c'est Marie-Hélène Fraissé dans L'Échappée belle qui demande à Marlène Bellilos de partir sur les traces de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. C'était le 3 décembre 1993 sur France Culture.
J'ai préparé un petit champ de départ.
Ah non !
Quelle est cette lueur à l'horizon ?
C'est la tour de l'île de Pharos, dont le feu guide les navires. Nous serons à Alexandrie demain.
Une tour pour guider les navires ? Ils sont fous, ces Égyptiens.
Donc là, au fond, là, ce qu'on voit, c'est le phare, c'est le reste du phare.
Le reste du phare, c'est une forteresse mamelouk qui a été bâtie sur les fondations du phare. Le phare était le fameux phare d'Alexandrie, qui avait une hauteur de, je crois, 120 mètres, selon la tradition, ce qu'on raconte. Et c'était sur une île, naturellement, quand la ville a été fondée. La ville, naturellement, a été fondée avant le phare. Et le phare était le nom de l'île. Lors de la fondation de la ville, l'île a été reliée à la terre ferme par une digue avec deux ponts qui permettaient le passage du port de l'Est au port de l'Ouest. Et cette digue s'appelait le Heptastadion. La mer a amené après du sable et après les gens ont bâti sur cet isthme qui s'était créé. Et maintenant, l'île n'existe plus depuis longtemps. Nous sommes ici justement sur ce qui reste de l'Heptastadion. Et nous allons nous rapprocher de ce qui était l'île de Pharos. On y va ?
Alexandrie, en route sur les traces de la nouvelle bibliothèque. Faites attention là parce qu'on risque d'écraser des gens.
Je fais attention.
La population d'Alexandrie aujourd'hui c'est combien ?
Mais on dit de 4 à 5 millions d'habitants. C'est un peu vague, 4 à 5 millions. Et pendant l'été, je crois qu'on va plus vers les 5 millions, et peut-être un peu plus qu'à 5 millions parce qu'il y a des kairotes qui viennent passer l'été ici. Et voilà, les deux monuments les plus importants de la ville étaient le phare et la bibliothèque.
Cléopatra used to have a palace at the end of this promontory.
Cléopâtre avait son palais là, sur ce promontoire. À côté se trouvaient les palais royaux, et c'est là que va se situer la bibliothèque, d'où la dimension historique de ce site. Quant au phare, c'était un point de repère et une des merveilles du vieux monde. Mais quand il fut détruit par un tremblement de terre au 9e siècle, il ne servait plus à rien.
When it was destroyed by earthquake in the 9th century, it was of no use. More important was the library itself.
Le plus important était la bibliothèque elle-même, qui aurait dû être, elle aussi, une merveille de l'ancien monde. Elle est restée pendant 6 siècles, mais même encore maintenant, le rayonnement de la bibliothèque éclaire toujours l'humanité.
So I think to me, the library was more important, more significant even than the lighthouse of Pharos.
C'est pourquoi je pense que la bibliothèque était importante, même plus que le phare, car il ne guidait que les bateaux, alors que même si la bibliothèque d'Alexandrie est détruite, La connaissance qu'il diffusait éclaire toujours les esprits.
Is still radiating human minds and thoughts until now.
Sur le macadam de la corniche d'Alexandrie, il fait chaud en ce milieu du mois d'août. Comment était-ce en ce IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les premiers Ptolémées décident de faire de cette cité d'Alexandre l'une des plus importantes de la région? Rêve de puissance, bien sûr, qui se devait aussi de faire une place à la culture. Athènes n'était pas loin et Aristote non plus. Mais l'idée folle de vouloir rassembler en un seul lieu tous les livres du monde, ainsi que les hommes qui pourraient les étudier, les conserver. Comment prend-on une telle décision, unique dans l'histoire, de créer la bibliothèque d'Alexandrie? Incendiée ou simplement disparue, à l'histoire de la bibliothèque a fait place celle de sa perte, la perte possible de tous les livres du monde. Ce 12 février 1990 à Assouan, ils sont plusieurs, des souverains, des présidents, qui se prennent à rêver à nouveau de créer un lieu de culture entre le sud et le nord. Il y a là Hosni Moubarak, François Mitterrand et d'autres. Les pays arabes mettent sur la table, en 24 heures, 64 millions de dollars. Depuis 3 ans, dans des bureaux, pas loin de la mer, près du chantier, des hommes et des femmes essayent de donner une forme à cette idée. Giovanni Romerio, directeur du projet pour l'UNESCO.
Des experts ont suggéré un sous-titre à la bibliothèque qui pourrait s'appeler la bibliothèque des civilisations et du progrès de la connaissance. Comme élément pour la définition de la mission de la bibliothèque, certainement ça sera une bibliothèque universitaire, mais pas seulement une bibliothèque d'université. Ça sera une bibliothèque de recherche, mais pas seulement une bibliothèque de recherche. Une bibliothèque ouverte au public, une bibliothèque publique, mais pas seulement. Donc la structure de cette bibliothèque, la définition de la structure est un problème assez complexe. Si vous me permettez, le projet d'une bibliothèque nationale est d'une certaine façon, d'un certain point de vue, plus simple. Parce que la bibliothèque nationale doit englober tous les produits d'un pays et c'est plus facile. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a déjà une bibliothèque nationale, il y a des autres bibliothèques spécialisées et ça devrait être peut-être entendu comme un institut de recherche et avec une bibliothèque. Recherche dans le domaine de l'information, naturellement, pas de recherche, on ne va pas installer des laboratoires. Et ça sera une bibliothèque qui devra faire revivre l'idée, le principe sur lequel était basée l'ancienne bibliothèque. Comme élément pour la mission, on ne pourra pas éviter de couvrir la période pharaonique. La période hellénistique, naturellement, la période gréco-romaine, la documentation sur la tradition judéo-chrétienne et le début de la période chrétienne, certainement, la période islamique.
Monsieur Mohsen Zahran, directeur du Gaulle.
Now, part of Egypt's giving, which is more than $100 million, is this.
Une partie du don de l'Égypte qui s'élève à plus de 100 millions de dollars est entièrement utilisé pour le centre de
conférence.
Rien que la construction a coûté 40 millions de dollars. Ainsi, l'Égypte a donné le terrain et le centre de conférence pour faire revivre la bibliothèque d'Alexandrie.
Shall we go in?
Nous sommes dans le site, nous sommes tout à fait dans le site, vous voyez, c'est assez grand et ça démarre à partir de la façade de la salle de conférence, du centre de conférence, jusqu'à cette bâtisse que vous voyez là-bas, pas très jolie à voir, c'est un hôpital.
Et ce qu'on voit devant nous, c'est la zone des fouilles archéologiques. Peut-être que nous ne pouvons pas descendre d'ici, il faudra prendre un autre chemin. Le plan du bâtiment est circulaire. Hein.
Oui.
Et nous sommes sur le demi-cercle qui a été fouillé jusqu'à maintenant. Et la chose que j'ai compris, c'est que dans cette direction, il y a aussi des canalisations d'eau qui sont plus utilisées naturellement, qui vont vers la mer et qui indiquent que dans cette direction, il y avait la voie royale. C'était la rue qui menait au palais royaux des temps tolémaïques, qui était probablement sur la péninsule que nous voyons devant nous.
On est à combien de profondeur là ?
Ah, je crois que... Talata ? 3 mètres.
Pas au 3 mètres.
3 mètres à peu près, 3 mètres de profondeur. Et ça, c'est des mosaïques de l'époque hellénistique, probablement. Les pierres utilisées sont très très petites. Je crois 1,5 mm de côté. On a devant nous ici, à ma droite, à votre gauche, un chien. C'est un chien debout. La dimension de ça, c'est 1,5 mètre à peu près de diamètre. Et à votre droite, c'est le coin probablement d'une salle. Je crois qu'ils vont... Ils vont
Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on voit que les mosaïques ont conservé complètement toutes leurs couleurs.
Oui, oui. Je ne sais pas si on peut... Peut-être ils vont soulever la... What did you find, apart from the mosaic? Des statues, des têtes de statues, head of statues.
From the statue here, we find that it's for the third Ptolemaic. And third Ptolemaic, we know that he bases the library of Alexandria, or it's open on his period.
Ils ont trouvé la tête du troisième Ptolémée. Il dit, selon certains spécialistes, pendant le troisième Ptolémée, il y a eu la fondation ou le développement de la bibliothèque d'Alexandrie. Peut-être la bibliothèque a été ouverte pendant le deuxième Ptolémée et peut-être développée pendant le troisième. Ils ont trouvé la tête d'une statue qui représente ce roi, mais il y avait aussi une figure féminine, sa femme, his wife aussi,
his wife,
sa
Bérénice,
femme,
hein.
Bérénice. Yeah.
Mais alors. Et si ça continue comme ça, vous allez pouvoir avancer les travaux s'ils découvrent tous les jours quelque chose.
S'ils découvrent tous les jours quelque chose, oui, on ne sait pas s'il faut le souhaiter ou ne pas le souhaiter. Naturellement, chaque fois qu'on trouve quelque chose, ça donne plus d'importance et plus de poids culturel à notre travaux. Il faudra penser de peut-être les insérer dans le projet, si c'est possible.
En duplex de Bari, en Italie, l'historien Luciano Canfora s'interroge.
On dit habituellement que c'est le roi Ptolémée qui a fondé la bibliothèque d'Alexandrie sur un projet d'un savant athénien qui s'appelait Démétrius du Phalère. Ce Démétrius-là, il était un élève d'Aristote. Il avait appris, comme le dit Strabon, comme l'on esquisse une bibliothèque à l'école d'Aristote.
Et en fait, Démétrius est un Démétrius en déroute, dites-vous.
Oui,
qui va
Démétrius
s'occuper.
Qui s'enfuit d'Athènes après avoir perdu le pouvoir politique et qui est un réfugié illustre, dont l'expérience chez Aristote est la base pour cette création tout à fait nouvelle que c'est justement le recueil des livres du monde entier.
Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objectif de cette bibliothèque d'Alexandrie ? 500 000 rouleaux, dites-vous.
Oh, oui, les chiffres sont difficiles à vérifier. On peut jouer avec les chiffres, mais... L'idée centrale, c'est un recueil total. C'est-à-dire, on avait déjà, chez Aristote, essayé de ramasser les livres de tous les genres littéraires. L'histoire, la tragédie, la comédie, les orateurs, les médecins. Mais à Alexandrie, l'idée est plus vaste. Il faut ramasser les livres du monde. On traduit de langues étrangères avec l'aide de traducteurs professionnels. Et nous savons d'une grande quantité de sources qu'en effet, on a traduit non seulement les livres des Juifs, comme le dit une source, la lettre d'Aristée, mais aussi les livres des Iraniens et même des Romains. Voilà le projet somptué d'une bibliothèque totale.
Ce qui est remarquable pour nous dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'était qu'il ne s'agissait pas simplement d'une institution de conservation de textes.
Michel Butor.
C'était aussi une université, on peut dire. Hein. C'était une institution de recherche. Alors, il y avait des conférences, il y avait des séminaires, etc. Il y avait toute une activité autour de la bibliothèque. Et la bibliothèque n'aurait pas pu continuer sans cette activité, car les rouleaux, qui étaient des rouleaux de papyrus, et puis ensuite des rouleaux de parchemin, etc. Mais surtout les rouleaux de papyrus étaient des objets extrêmement fragiles, donc qui demandaient des soins particuliers, qui demandaient un entretien particulier. Et c'était seulement la vie qui était autour qui permettait le recopiage et l'entretien de cette façon-là. Quelquefois, nous réussissons à reconstituer des textes anciens. Avec les palimpsestes, on a pu gratter un peu, si vous voulez, la surface de ces rayons perdus ou ces rayons engloutis de la bibliothèque. Donc, cela donne encore plus de corps à cette absence, à tout ce qui nous manque. Quel pouvait être le style de cette bibliothèque? C'est probablement plutôt alexandrin que pharaonique, parce que l'architecture alexandrine est quand même plus légère, donc ça a dû être plus facile à construire de cette façon-là. Bon. Quelle image nous pouvons avoir? Eh bien, je pense qu'il faut remonter de proche en proche. On peut très facilement reconstituer maintenant ce qu'étaient les bibliothèques médiévales, hein, avec leurs salles, avec leurs armoires, et puis les lutrins sur lesquels on déposait les livres, eh bien probablement que dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait aussi des salles avec des armoires, et puis des lutrins, des pupitres sur lesquels on pouvait étudier les textes qui étaient sortis de ces armoires. Voilà ce qu'on peut imaginer.
Pardonne-moi, ça s'y gêne, la bibliothèque.
Pourquoi nous déranges-tu, Apollodore?
Les Romains, ils ont incendié la flotte égyptienne.
Il était grand temps.
Venez voir l'incendie, il s'est étendu dans la cité.
La cité?
Pas à toute la ville, hein, quelques maisons seulement, mais la bibliothèque est en feu. La grande bibliothèque?
Euh, Alors maintenant, évidemment, le point contesté, c'est comment la bibliothèque fut-elle incendiée?
C'est le grand problème. Il faut surtout innocenter Jules César. C'est une légende tout à fait faible et mal documentée, celle qui indique Jules César comme le pyromane, celui qui a incendié au cours d'une lutte, d'une guerre civile, la grande bibliothèque. On peut montrer les sources à la main que la bibliothèque existait parfaitement dans son essence complète, même après Jules César, au temps d'Auguste, au temps de Domitien. C'est seulement à l'époque des guerres entre l'empereur Aurélien et Zénobie, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, que l'on a détruit le quartier d'Alexandrie qui s'appelait Broukion, où se trouvait la bibliothèque. C'est donc un tout autre moment de l'histoire de l'Égypte, le moment terrifiant où l'on a perdu cette merveille.
Mais pour rester un moment en fait sur la version de César, en fait, il y a eu un incendie dans le port. C'est ça qui s'est passé au moment de César.
Oui, mais le port était loin du site de la bibliothèque. La bibliothèque se trouve, ou bien se trouvait, à l'intérieur du palais royal, qui était un quartier, pas un palais. C'était un quartier qui s'accroissait de temps en temps. On a chez Strabon et chez Diodore de Sicile des pages merveilleuses sur le quartier où se trouvait le palais royal. Bien, la bibliothèque est à l'intérieur, César est dans le palais, il a fait incendier le port pour repousser ses ennemis, donc ce sont les magasins du port qui ont été brûlés. Et dans ces magasins-là, on trouvait des rouleaux destiné au commerce. Voilà l'équivoque qui est à la base de l'idée que César ait incendié la bibliothèque d'Alexandrie.
Et alors, votre version de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie?
Mais ce n'est pas la mienne seulement. Je suis en bonne compagnie en soutenant que cet événement terrible s'est produit à l'époque d'Aurélien. C'est la guerre entre Aurélien et Zénobie. Zénobie, la reine d'Arabie, qui s'est opposée à Aurélien, on parle du IIIe siècle après Jésus-Christ. La guerre entre les deux s'est passée justement à Alexandrie, et c'est pendant cette guerre que les Romains ont incendié le quartier Broukion, où se trouvait la bibliothèque.
C'est tout. Et pour quelle raison?
Mais pour la même raison que les Anglais ont bombardé Dresde pendant la dernière guerre mondiale. Et la pinacothèque de Dresde a été, comment dirais-je, la victime des bombes anglaises, de la même façon que la lutte dans les rues d'Alexandrie à l'époque d'Aurélien a produit cet incendie.
Parle d'un incendie de cette bibliothèque, évidemment, on ne sait pas du tout si cet incendie a eu lieu. Il y a peut-être eu quelque chose comme un incendie à un certain moment, mais il est probable que ce qui a été incendié, c'était quelque chose qui était déjà considérablement diminué. La lecture ne marchait plus à l'intérieur de la bibliothèque d'Alexandrie. Bien avant que les Arabes soient arrivés là, eh bien c'est la christianisation qui, avec tous ces aspects de fanatisme, eh bien qui a considérablement détérioré la bibliothèque d'Alexandrie et toutes les bibliothèques du monde antique, malgré les protestations d'un certain nombre de pères de l'Église qui, à certains moments, ont fait ce qu'ils ont pu pour conserver les grandes œuvres de la culture classique. comment s'est fait l'incendie de ce qui restait de la bibliothèque d'Alexandrie, ça, on n'en sait rien. On dit que c'est le calife Omar qui aurait détruit cette bibliothèque et on lui attribue la formule suivante. De deux choses l'une, où ses livres disent la même chose que le Coran et par conséquent ils font double emploi, ils sont inutiles, ou bien ses livres disent autre chose que ce que dit le Coran et par conséquent ils sont nuisibles. Donc de toute façon, ils ne valent pas la peine d'être conservés. Il est évidemment très très vraisemblable que cette histoire est une légende et il est très vraisemblable aussi que la bibliothèque était déjà considérablement détériorée, au moins, avant qu'il y ait cette première grande invasion musulmane. Donc, le calife Omar n'est vraisemblablement pas responsable de la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie a dû se détériorer progressivement en même temps que le monde, que l'Empire romain se détériorait. De même que les liaisons entre les différentes parties de l'Empire romain se sont détachées de plus en plus. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux barbares de s'infiltrer. De même, les ouvrages de la bibliothèque d'Alexandrie ont dû être de moins en moins bien conservés. Ils ont dû se tomber peu à peu en poussière. Et probablement, il est devenu de plus en plus difficile de les recopier, donc de les rajeunir. Et on s'est trouvé, au bout d'un certain temps, devant une bibliothèque en poussière. Et c'est cette bibliothèque qui s'est effondrée toute seule. Le seul bruit de l'arrivée des Arabes a dû suffire pour que tous ces restes de livres soient dispersés comme une nuée de papillons. Alors évidemment, la bibliothèque d'Alexandrie, ça c'est un thème qui est inévitable pour un écrivain et aussi pour un universitaire. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est pour nous occidentaux, c'est le symbole même de la bibliothèque, c'est la bibliothèque par excellence. Alors on rêve bien sûr de ce que cela pouvait être et de tout ce qu'on a perdu dans la destruction de cette bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie, c'était bien sûr le rêve d'avoir tous les livres qui étaient connus dans le monde méditerranéen de l'époque. C'était avant tout des livres grecs. On avait là à peu près tout qu'on ait, que c'était véritablement l'abrégé du monde. Et ce qui est impressionnant pour nous, bien sûr, quand on pense à cette réunion de livres qui étaient des rouleaux, bien sûr, à l'époque, c'est la quantité considérable de ce qui est perdu. Car nous ne connaissons qu'une petite partie des livres de l'Antiquité. Il n'y a qu'une petite partie des livres qui se trouvaient dans cette bibliothèque qui sont arrivés jusqu'à nous. Je me souviens très bien qu'au château de Versailles, on visite la bibliothèque de Louis XV et la bibliothèque de Louis XVI. Ce sont deux petites salles, relativement petites, dans lesquelles il y a de très beaux livres. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ces salles sont couvertes de livres entièrement, et même les portes sont couvertes de livres. Alors, sur les portes, ce sont des faux livres, ce sont seulement des dos de livres. des reliures dont il n'existe que les dos. Et les livres qui sont ainsi sur les portes sont des livres qui ont disparu. Ce sont des livres que nous n'avons plus. C'est d'ailleurs très, très émouvant, cette idée que les livres absents sont les portes des bibliothèques. Alors, ainsi, on trouve les tragédies de Sophocle, Eschyle ou Euripide qui nous manquent, les livres de Tite-Liv qui nous manquent, etc. Les œuvres d'écrivains dont nous connaissons les noms, mais dont nous n'avons à peu près aucune œuvre. Alors, il y a ainsi toute une rêverie très importante et qui a traversé les siècles sur la bibliothèque perdue.
Well, the idea of the design that we see here, this is the library proposed design in the model.
Nous voyons ici la maquette de la bibliothèque, et là on voit que le centre de conférence est bien intégré dans le projet. Entre les deux, on voit la place de la culture. Le concept du designer est de faire revivre l'idée de l'enseignement et non de reconstruire le bâtiment tel qu'il était. Par conséquent, le soleil de l'apprentissage, le rayonnement de la connaissance ne s'est jamais arrêté, même celui de l'ancienne bibliothèque, car on reçoit toujours le savoir des érudits de l'époque. Le soleil ne s'est jamais couché.
Has continued with mankind until now, of the old scholars. So the sun really has never set.
Quand on pense à la renaissance de la bibliothèque, on pense au soleil qui se lève à nouveau, avec tout le rayonnement et la gloire qui l'accompagne. Alors, ce que nous voyons ici sur la maquette, c'est un disque à moitié enterré dans le sol, avec une profondeur de 106 mètres, soit deux terrains de football.
The disc is about 160 meters in width, about two football fields. And when you look from far away, you see that the sun has not only risen, but has a continual, perpetual sunrise.
That's quand on le regarde de loin, le soleil se lève perpétuellement pour dire que l'humanité ne meurt jamais.
Part is above ground, telling mankind that knowledge never dies.
Évidemment, il n'était pas question de proposer quelque chose de style grec ancien ou des choses comme ça. Donc, c'est un projet, un peu un modèle de projet de rupture. L'UNESCO, le gouvernement égyptien et le programme des Nations Unies pour le développement ont collaboré par l'organisation d'une compétition internationale pour le choix du modèle de la bibliothèque. C'était une des compétitions parmi les plus réussies selon l'Union internationale des architectes. Il y a eu 1400 participants de 77 pays et le projet vainqueur est un projet très, très avancé, très moderne. C'est un cabinet norvégien qui a pris le nom Snohetta. C'est pas un nom qui correspond au nom d'une personne, c'est le nom d'une montagne.
Dans cette histoire, qui est finalement une bibliothèque universelle, quelle est la participation de l'Égypte ?
Voilà, l'Égypte participe avec, naturellement, la donation, la mise à la disposition du projet, du terrain nécessaire pour la construction de la bibliothèque. Et
Avec l'Égypte contribue aussi avec l'existence de Gaulle, General Organization of the Alexandria Library, Gaulle, qui a été créé par un décret présidentiel, qui a un budget indépendant et financé par le ministère de l'Éducation nationale. L'idée du projet a été conçue en Égypte, et c'est important de se rappeler de ça parce que quelqu'un avait suggéré que ce projet est une création intellectuelle importée dans ce pays, ce qui n'est pas vrai. L'idée a été conçue dans le cadre d'une série de réflexions conduites par les responsables de l'université d'Alexandrie. Alexandrie a une très grande université avec 80 000 étudiants. Et il y a naturellement des services d'information et des bibliothèques, plusieurs bibliothèques. Mais ce qui manque est un grand institut d'information moderne capable de fournir aussi le support d'information à toutes les facultés qui sont représentées dans cette université. Alors, vers la fin des années 70, il y a eu cette réflexion et il y a eu une proposition conçue sur le plan national pour créer une grande bibliothèque pour l'université. Cette idée a été présentée à un certain moment aux instances internationales pour avoir un appui technique surtout. Je crois pas qu'on pensait à l'appui financier au départ, mais surtout à un appui technique pour la conception de cette grande bibliothèque. Et lors d'une visite du directeur général de l'UNESCO en Égypte, cette idée a été revue je crois que dans une table ronde dans laquelle il y a eu plusieurs débats, une idée a été lancée, non pas de faire un projet pour une bibliothèque pour une grande université, mais de concevoir la renaissance de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Je crois que l'idée a été lancée que si l'Égypte et Alexandrie voulaient avoir pas seulement le support technique, mais aussi une assistance financière, mobiliser l'intérêt dans le monde, il fallait peut-être créer quelque chose de ce type, la renaissance de l'ancienne bibliothèque. Parce que ceci aurait attiré l'attention du monde entier. Et il y a eu deux questions posées au conseil exécutif de l'UNESCO. Et l'UNESCO s'est engagé, au nom du directeur général, pour d'abord deux choses, faire un appel au monde entier pour la renaissance de la bibliothèque d'Alexandrie, et la deuxième chose, c'est pour voir s'il était possible, à la demande du gouvernement égyptien, de mobiliser des fonds pour une telle initiative.
Conseiller Al-Sayed Ismail Gawsakhi. Je suis le gouverneur d'Alexandrie. Alexandrie est une ville historique et le deuxième capitale d'Égypte. On dit toujours que Alexandrie est aussi le capitale de culture en Égypte. Dans une ville comme Alexandrie, assez grande comme elle, il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense, grâce à Dieu, nous avons fait beaucoup d'efforts pour avoir notre cité dans les cas qui nous manquent beaucoup être propre, être jolie. On dit toujours qu'Alexandrie, la poupée des Méditerranées, ou la perle des Méditerranées. C'est pour cela que nous faisons beaucoup d'efforts maintenant pour avoir notre fille assez bien. L'année prochaine, moi, je pense que nous allons faire toutes les choses pour avoir tous les citoyens avoir un appartement avec électricité, l'eau potable et toutes les choses que je pense que c'est très important pour les familles à vivre.
Malgré le développement important sur la démographie de la ville, vous êtes en train de développer un projet international qui est celui de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors comment vous voyez ce projet dans le développement de la ville? Et bon, il faut dire que c'est un mérite de développer un projet pareil, alors qu'il y a aussi d'autres problèmes, mais que c'est un projet, je pense, important pour l'Égypte, important pour Alexandrie, et peut-être pour le monde.
Moi, je pense que l'importance de ce projet est une importance mondiale. Parce que vous connaissez que la bibliothèque d'Alexandrie n'était pas une place seulement pour avoir le livre comme ça. Elle était une université. Mais je pense qu'elle était la première université du monde. C'est pour cela quand nous faisons maintenant beaucoup d'efforts pour avoir cette bibliothèque encore une fois, et il sera encore une fois grande université. Vraiment, moi, je suis très content d'avoir ce projet mondial en Alexandrie. Dans chaque place, on m'est questionné qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet en Alexandrie. Moi, je dis, tout le peuple alexandrin sont très honorés d'avoir cette bibliothèque encore une fois dans son ville. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir à Alexandrie. Il y a beaucoup d'hommes et des dames qui viennent pour peut-être étudier dans cette université, pour faire des recherches. C'est pour cela, moi, je pense que ce projet est très, très important d'Alexandrie. Et je souhaite que je serai vivant, comme on dit, pour voir les temps qui nous ouvrent cette place, cette université pour le bénéfice du monde intérieur.
Je vous le souhaite.
Laïla Abdelhadi, et je suis ici en charge du département de la bibliothèque pour organiser le contenu de la bibliothèque et aussi les bibliothécaires qui vont y travailler.
Alors comment vous la voyez-vous, cette future bibliothèque d'Alexandrie? C'est une bibliothèque d'Alexandrie, d'Égypte, du monde?
Bon, vous savez que c'est la bibliothèque alexandrine qui est le nom original de la bibliothèque ancienne. Et cette ancienne bibliothèque était pour faire un dialogue entre les pays dans la région méditerranéenne. Et je pense que c'est aussi le but de cette nouvelle bibliothèque. Ce n'est pas renouveler ce qu'il y avait dans l'ancienne bibliothèque, mais exécuter les idées de l'ancienne bibliothèque et pour faire un bon rapport avec tous les pays de la Méditerranée enrichir aussi la culture, la vie intellectuelle de l'Égypte ce qui va aider beaucoup à documenter tout ce qu'il y a en Égypte, qui va montrer comment l'Égypte est riche dans tous ses domaines culturels.
Mais comment on achète des livres pour faire la bibliothèque d'Alexandrie?
Il y a plusieurs façons. On fait des études très spéciales pour s'assurer à recevoir les livres nécessaires pour cette bibliothèque. J'ai eu une idée récemment que j'espère pouvoir exécuter, et c'est de constituer la base de la collection de la bibliothèque avec les idées et la participation de tous les personnes spécialisées dans leur domaine qui sont bien connues en Égypte et dans le monde entier. Dans la ligne politique, par exemple, vous avez Dr. Boutros Ghali, qui est le secrétaire général des Nations Unies, et aussi Dr. Asmat Abdelmigid, qui est le secrétaire général de la Ligue arabe. Des personnalités dans ce statut pourraient donner une base forte dans les collections spécialisées dans les différents domaines.
Vous pensez aussi à des écrivains, des intellectuels?
Il y a aussi des journalistes, des écrivains, comme par exemple Naguib Mahfouz, qui a pris le Nobel Prize. Il y a aussi des journalistes qui sont des écrivains à part être journalistes, comme Anis Mansour, comme Mohamed Hassanin Heikel. Il y en a beaucoup d'autres. J'espère réussir à contacter toutes ces grandes personnalités qui sont très occupées dans beaucoup d'autres affaires. Mais je pense que prendre part dans un projet pareil donnera satisfaction à tout le monde.
Et alors là, disons, dans vos bureaux, on voit donc des livres. On va aller tout à l'heure au rayonnage, et puis vous constituez des cartons que vous stockez.
Oui, c'est ça. C'est quand il y a eu la déclaration République en 1988, il y a eu un budget spécial qui a été donné à l'Organisation Générale de la Bibliothèque d'Alexandrie du gouvernement égyptien, qui a tenté les personnes en charge d'acheter des livres pour commencer la collection. Ils ont bien acheté vers les 20 000 volumes jusqu'à présent dans des différents sujets, mais qui feront partie de la bibliothèque, mais ils doivent être encore procédés et étudiés et décider que c'est vraiment les titres qu'on a besoin dans la bibliothèque.
En fait, pour l'instant, si je comprends bien, ceux qui ont donné de l'argent, c'est pour le futur. Et pour l'instant, c'est le gouvernement égyptien qui a donné de l'argent.
Plus ou moins, mais pour le futur, ce sont les fonds qui ont été accumulés par les amis de la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a eu un groupe en Espagne, aux États-Unis. Il y a des groupes qui commencent à se former un peu partout, et c'est encore jeune, alors on s'attend qu'il y aura peut-être un groupe dans chaque pays du monde qui sera intéressé à ce projet, et les fonds qui vont être accumulés de ces groupes feront les fonds pour le futur. Mais par exemple, dans la réunion d'Aswan, qui avait tous les chefs d'État de différents pays de la Méditerranée, il y a eu un fonds bien accumulé, mais plutôt des pays arabes. On s'attend encore un peu avec quelques coopérations des pays européens aussi. Ils ont commencé vraiment à coopérer en offrant des stages pour nos bibliothécaires pour aller s'entraîner là-bas. La France, par exemple, a offert un stage pour 6 mois pour que quelqu'un de chez nous va s'entraîner pour la conservation et la préservation des livres.
Un autre exemple de la mobilisation de la communauté internationale, c'était l'argent qu'on a collecté jusqu'à maintenant, 65 millions de dollars plus intérêts. Naturellement, cet argent n'est pas suffisant pour terminer le projet, parce que nous avons calculé que le budget total du projet, y compris le bâtiment, mais y compris aussi les collections, ça doit être équivalent à un chiffre qui doit être près de 170 millions de dollars.
et qui comprend 110 ou 120 millions de dollars seulement pour le bâtiment. Le reste, c'est les systèmes, les collections et la formation.
Donc là, on arrive devant des rayonnages pleins de livres. Vous pouvez peut-être nous dire déjà un petit peu les titres là, que vous avez.
Vous savez bien que quand ces livres ont été acquis, il n'y avait pas vraiment le personnel qui pouvait les mettre en ordre, parce qu'encore, nous sommes dans l'étape de choisir le système d'automation qu'on va utiliser dans la bibliothèque. Alors, ils attendent un peu pour qu'on fasse cette décision. Mais vous voyez là une sélection de différents sujets. La classe de Atlas of the Bible, ce qui est dans, pour le département de religion, et on va couvrir avec ça des religions différentes, les religions musulmanes, chrétiennes, coptes et d'autres religions qui peuvent affecter la culture de la région. Il y a d'autres livres, par exemple, ici Egypt of the Air, From the Air. On essaye d'accumuler tout ce qu'on peut trouver sur l'Égypte, parce que ça donne une réflexion, une opinion de tous les écrivains du monde sur l'Égypte.
Mais là, on voit par exemple Alexandre Calder, on voit aussi Computer Communications. Là, si je lis encore un titre, là, on a Contemporary Dramatists.
Oui, bien sûr, la bibliothèque aura des sujets différents. C'est un peu une bibliothèque publique et une bibliothèque de recherche qui mettra un peu plus d'importance sur les études d'Alexandrie depuis qu'Alexandrie a été née, et aussi sur l'Égypte, le monde africain, le monde arabe et aussi les pays méditerranéens qui ont eu affaire avec l'Égypte et que leur civilisation a affecté ou a été affectée par l'Égypte. Mais il y aura une base générale dans toutes les branches de sciences différentes pour pouvoir donner aussi aux Égyptiens une exposition sur ce qui arrive dans le monde entier et les mettre dans une étape plus élevée intellectuellement.
Mais vous ne la voyez pas comme la bibliothèque qui a la plus grande bibliothèque du monde, comme était l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie? C'était ça le désir des Ptolémées?
J'espère que ça arrivera à ça, mais nous avons déjà des compétiteurs comme la Bibliothèque du Congrès, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque britannique. Alors, avec leur coopération, j'espère qu'un jour on peut arriver à ce but aussi.
Donc nous pensons que l'année prochaine, en 1994, on pourra commencer les travaux de fondation. Nous pensons pouvoir faire une première inauguration symbolique en 1995. Et l'ouverture réelle de la bibliothèque, peut-être, pourrait être fin 97. Si tout va bien.
Alors là, nous arrivons vers les personnes que vous formez, qui sont justement les jeunes bibliothécaires de la future bibliothèque d'Alexandrie. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer une bibliothèque qui n'existe pas encore ?
Maintenant, on essaye d'être...
Ça, c'est à Abir.
De savoir tout à propos de la bibliothèque et du travail dans la bibliothèque, de toutes les opérations techniques. Et on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'on peut avoir dans la bibliothèque comme livres et comme manuscrits et comme tout ça pour développer et assembler les sources de l'ancienne culture du Méditerranée et de l'ancienne de Moyen-Orient.
Mais enfin, quand même, actuellement, moi j'ai été voir le chantier, il y a juste un trou et il n'y a pas des moments où vous avez un peu des doutes?
Oui.
Parce qu'en général, quand on est engagé dans une bibliothèque, elle existe.
Oui, mais elle va exister.
Évidemment, c'est très excitant. Alors, on ne peut pas reconstituer la bibliothèque d'Alexandrie parce qu'on n'a pas assez de renseignements sur elle. Donc ça, c'est impossible. On peut faire donc un monument à la bibliothèque d'Alexandrie, hein, une nouvelle bibliothèque à la mémoire de la bibliothèque d'Alexandrie. Et on doit donc essayer dans cette bibliothèque monument de poursuivre un certain nombre d'avancées ou de dessins qu'on peut imaginer avoir été ceux de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, la bibliothèque actuelle d'Alexandrie ne peut être conçue que comme un nœud particulièrement important et symbolique, mais un nœud à l'intérieur du réseau de l'ensemble des bibliothèques sur la Terre entière. La bibliothèque d'Alexandrie actuelle ne peut pas être, hein, c'est impossible de la concevoir comme une accumulation de livres anciens, parce que les différentes bibliothèques les différentes grandes bibliothèques dans les différents pays où les grands collectionneurs évidemment veulent garder leurs trésors. Donc, on pourra toujours en acheter quelques-uns au cours des ventes ici ou là, mais ça sera quelque chose évidemment de très secondaire par rapport à l'ensemble des ouvrages anciens qui sont déjà placés, hein, fixés dans un certain nombre de grandes bibliothèques. Donc ça ne peut pas être ça, le dessin de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Le dessin de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, ça doit être un dessin de communication actuelle. Donc de communication des ouvrages tels qu'ils sont maintenant et évidemment de recherche sur la communication. Alors bien sûr, le site de cette bibliothèque fait que elle doit être particulièrement intéressée dans tout ce qui concerne la Méditerranée, particulièrement la Méditerranée orientale, toutes les civilisations anciennes, plus ou moins anciennes de cette époque-là. Par conséquent, c'est une bibliothèque qui, si elle doit se spécialiser, dans l'Égypte ancienne et les civilisations de la même époque qui peuvent nous apporter de la lumière à ce sujet, sur les civilisations méditerranéennes en général et avec évidemment un accent sur l'époque hellénistique. Et puis en même temps, la bibliothèque actuelle d'Alexandrie doit être nécessairement un lieu d'études privilégié pour tout ce qui concerne la civilisation musulmane. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut aussi que ce soit un lieu de recherche sur la communication aujourd'hui. Ça ne peut pas être seulement un lieu où l'on accumule des textes anciens, puisqu'ils sont en fait accumulés ailleurs. Ça peut être un lieu où on reproduit, où on étudie des textes plus ou moins anciens, et surtout un endroit où l'on peut travailler sur la communication de ces textes anciens. Et par conséquent, ça doit être un lieu dans lequel l'histoire du livre et l'histoire de la communication soit une étude privilégiée. Donc, ça doit être un lieu aujourd'hui de recherche sur les nouvelles formes du livre, sur tout ce qu'on peut appeler le livre électronique et sa communication.
Et je pense que c'est un peu aussi l'idée de la bibliothèque de Babel, c'est-à-dire une chose presque impossible d'imaginer sans sentir le vertige. Personne ne peut lire tous les livres du monde, mais je pense que c'est bien de penser qu'il y a dans une place au monde qui peut exister cette idée d'une bibliothèque totale et qui peut garder tous les livres du monde. Parce que comme ça, on pense avec liberté, on pense qu'on peut faire le choix de une espèce de palace immense et de trouver des choses très belles ou mystérieuses ou douloureuses.
Maria Kodama, femme de Borges.
Pour lui, une bibliothèque, c'est une espèce de sanctuaire, une chose magique et un lieu où on peut trouver des amis à travers des siècles. C'est-à-dire pour lui, les livres, avoir des livres, acheter des livres, c'est une chose que même quand il était aveugle, il a continué à faire pendant toute sa vie. Et parce que selon lui, il y a quelque chose dans les livres, dans la possibilité de toucher un livre qui est en relation directe avec une façon de penser et un sentiment devant la vie. Et à cause de sa cécité, il connaît toute la position des livres dans sa maison, qui n'est pas vraiment une disposition alphabétique, sinon par matière quelquefois. Mais il connaissait bien où sont et il demande, par exemple, je vais le Voltaire qui est dans le troisième rayon de livres à côté de la fenêtre, par exemple. Et il se souvient, et tous ses livres ont des notes à la fin de le livre, et qui sont quelquefois avec la date. Et on peut voir les citations qu'il notait à la fin de le livre et à travers les années. C'est un travail très, très intéressant. Et il se souvient de tout, même de la partie de la page où on peut trouver la citation. Et il avait une mémoire extraordinaire et c'est pour ça que c'est très, très intéressant de voir les livres de sa bibliothèque, non?
Dans cette nouvelle bibliothèque, le thème, disons, cette absence, cette perte doit être un thème fondamental. Parce que la perte des livres, la perte des textes est évidemment un malheur. Les livres ou les textes dans leur conservation, quelle qu'elle soit, les textes sont le rempart absolument indispensable de la liberté, de toute liberté. Et donc, quand des livres disparaissent, c'est un peu de notre liberté qui disparaît. Tous les régimes autoritaires, tous les fanatismes ont essayé de supprimer des livres. Et à cet égard, la légende du calife Omar que j'ai rappelé tout à l'heure est tout à fait significative.
The representative of the UNDP in Cairo, who is Spanish, said at one point Alexandria.
Le représentant de l'UNDP au Caire, qui est espagnol, a dit qu'Alexandrie n'est pas seulement la fenêtre culturelle de l'Égypte pour l'Europe du Nord, mais ce sera également à travers cette bibliothèque la fenêtre culturelle de l'Afrique, grâce à la nouvelle Europe unie, comme un pont pour la coopération, la compréhension entre les gens du Nord et les gens du Sud. Alors, le rôle de la bibliothèque d'Alexandrie mais pas seulement culturelles et intellectuelles, mais aussi socio-économiques. C'est important pour le futur. La bibliothèque n'est pas seulement une bibliothèque, mais un centre de connaissances, de recherche et de développement pour le futur. Si vous voulez arriver à la paix et à la coopération entre les nations, ce doit être à travers la rencontre des esprits. Et où peut-on avoir ces contacts, sinon dans une telle bibliothèque?
Where best would you have contacts of the minds than in a library like this?
Quelle importance le docteur Ahmed Salem, recteur de l'université d'Alexandrie, accorde-t-il à la bibliothèque?
I do believe that this library will make Alexandria.
Je pense que la bibliothèque d'Alexandrie constituera pour la ville un pôle d'attraction. So
this is what I do. Yeah, this is what I do believe. It will be a point of attraction.
Yeah. And it's important for Alexandria?
Definitely yes. Definitely yes.
To be open to the world.
Yes.
Elle garantira l'ouverture au monde.
To go back to history.
Oui, je pense. Yeah. Le retour à l'histoire.
I'm not pessimistic.
Et surtout, je ne suis pas pessimiste.
I'm looking forward to
je regarde vers l'avenir et je rêve du jour où je prendrai part à l'inauguration.
Ceremony. Yes, this is my dream.
القلب اللي كان يبغيك انا نكويه دعوتي للجدود انا راهي مبنيه جميع اللي تعدى انا راه تديه ايه روحي يا وهران روحي بسلامه 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 القلب اللي كان يبغيك انا نكويه دعوتي للجدود انا راهي مبنيه جميع اللي تعدى انا راه تديه.
La bibliothèque d'Alexandrie également comme cheval de Troie contre la régression culturelle du fondamentalisme qui travaille en ce moment le monde arabe où on assassine les écrivains. C'était un reportage de Marlène Bellilos, au mixage Jean-Pierre Juncker, Mireille Gauthier, réalisation Christine Robert. Nous remercions pour leur participation la délégation permanente de la République arabe d'Égypte auprès de l'UNESCO qui a facilité ce voyage, le GAUL qui organise sur place la bibliothèque d'Alexandrie et son directeur, le professeur Zahran, également Giovanni Romerio, directeur à Alexandrie du projet pour l'UNESCO, gouverneur d'Alexandrie El Sayed Ismail El Gaoussaki, et puis participait également à cette émission Leïla Abdel Hadi, bibliothécaire, Essam Ahmed Salem, le recteur de l'université, Michel Butor, Luciano Canfora, historien, Maria Kodama, la compagne de Georges Luis Borges, traduction Marie Villard.
Cette échappée belle de Marie-Hélène Fraissé qui accueillait le reportage de Marlène Bellilos sur les traces de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 décembre 1993.